Bon, alors, bonsoir, bonsoir à tous. Ah, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition du cycle de conférences que nous organisons en partenariat avec l'Espace Mendès France et le laboratoire Migre Inter du CNRS et de l'Université de Poitiers. Comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de participer à ce séminaire, au fil de l'année, nous allons égrener un ensemble de conférences. Qui toucheront toutes les questions de migration et de lutte contre les discriminations avec différentes approches, qu'elles soient disciplinaires ou également méthodologiques, comme vous pourrez le voir au fil de l'année. Cette année, nous sommes d'autant plus heureux de débuter ce cycle que nous allons fêter nos 10 ans d'anniversaire de collaboration entre Migre Inter et l'Espace Mendès France. Et on doit remercier vivement Anne, qui nous a vivement encouragé à développer ce cycle de conférences. Donc, cette année, nous vous proposons 5 conférences avec Anouche Kunt, ma collègue qui co-organise ce séminaire au sein du laboratoire Migre Inter. Je ne vais pas vous donner le déroulé et le calendrier exact des 5 conférences de l'année, mais elles sont évidemment présentes dans le, je sais pas comment le qualifier, mais le programme, on va dire, le programme de l'année, non, des 6 premiers mois, des 6 premiers mois de l'Espace Mendès France. Et aujourd'hui, nous allons accueillir, enfin, nous accueillons Daniel Meyer. Donc, je suis très heureux de retrouver Daniel puisque on a eu l'occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises à Beyrouth, sur nos terrains de recherche. Mais aujourd'hui, l'accueillir à Poitiers, c'est vraiment une grande joie pour nous tous. Daniel est un chercheur. Alors, je vais aussi prendre le temps d'expliquer un petit peu le parcours de Daniel, parce que comme tu le sais, ce cycle de conférences est aussi ouvert aux étudiants qui sont en doctorat à l'Université de Poitiers en sciences humaines et sociales, et donc qui peuvent valider dans leur crédit d'études doctorales un ensemble de participations à des conférences. Et donc je vais prendre le temps aussi de signaler qu'un point qui est très important, c'est que tu as un parcours de recherche véritablement international, puisque au fil de ces années où tu as développé ta recherche et obtenu ton doctorat en sociologie politique, tu as eu l'occasion de parcourir différents espaces scientifiques, différents laboratoires de recherche. Tu as, alors si je ne me trompe pas et si j'ai bien lu l'ensemble des informations qu'on peut recueillir sur ton parcours scientifique et au sein des différentes institutions européennes et internationales, tu as développé ta recherche à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Tu as également travaillé à l'Université de Genève en tant que tel. Tu as ensuite également travaillé à l'Université Ca' Foscari de Venise, puis à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, où là, on a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois. Tu as ensuite intégré, pour les doctorants, intégré un centre de recherche français à l'étranger, en devenant chercheur associé à l'Institut français du Proche-Orient, donc l'IFPO, pour son site de Beyrouth. Tu as également ensuite eu un parcours au sein d'universités anglo-saxonnes, puisque tu as intégré le St. Anthony's College à Oxford, où tu as pu développer tes travaux, et également travailler au sein du centre de recherche sur les questions de frontières à Belfast, à l'université Queen's de Belfast, si j'ai bien noté l'ensemble de ce parcours-là. Je pense que c'est très important de le signaler, parce qu'on a tendance à oublier qu'un parcours de recherche, quand on s'engage dans un doctorat, amène souvent les étudiants qui ne pouvaient pas l'imaginer au début de leur recherche à avoir un parcours véritablement international, fait soit d'aide dans le cadre de programmes comme Erasmus Mundus, mais également finalement à les étudiants à pouvoir obtenir différents financements de recherche, soit dans des instituts français à l'étranger ou dans des universités étrangères. Et donc, c'est très important de signaler tout le parcours que tu as pu avoir au fil de ces années. Et aujourd'hui, ça t'amène à participer à un programme de recherche sur les frontières, mais tu en parleras peut-être en ouverture pour situer ton travail aujourd'hui. Ça t'amène à intégrer un laboratoire du CNRS à Grenoble, l'UMR Pact, pour développer ce programme sur les frontières et y participer. Et au fil de ces années de recherche, tu as développé tout un ensemble de travaux qu'on peut qualifier de travaux centrés sur la relation qui a pu s'établir entre espace et identité, comme tu l'as indiqué dans ton profil de recherche présenté sur le site de l'UMR Pact, avec évidemment pour terrain de recherche le Moyen-Orient et plus précisément le Sud-Liban. Le Sud-Liban qui a fait l'objet de la publication d'un ouvrage dont tu vas bien sûr nous parler et nous présenter aujourd'hui les résultats, et dont je vous ai imprimé quelques fiches de présentation pour ceux qui le souhaitent. Donc ce travail-là est un travail qui s'interroge sur la frontière Israël-Liban aujourd'hui, sur les enjeux scientifiques qu'il peut y avoir à travailler sur cette frontière, et notamment tout ce qu'elle nous permet d'élaborer sur le rôle des différents acteurs et différents statuts des acteurs qui sont en jeu sur cette frontière-là, que ce soit des acteurs institutionnels, issus d'organisations internationales comme la FINUL et des Nations Unies, ou bien encore la résistance armée avec le mouvement chiite Hezbollah, qui est effectivement un acteur de premier plan sur cette frontière. Donc je suis très heureux d'accueillir Daniel Meyer pour l'ouverture de ce cycle de conférences avec la présentation de ses travaux et plus particulièrement de ceux qui viennent juste d'être publiés donc avec cet ouvrage-là. Et je te laisse la parole et encore une fois, très heureux de te trouver à Poitiers aujourd'hui.
Merci beaucoup William pour cette magnifique introduction. Ça me fait à mon tour extrêmement plaisir d'être parmi vous. C'est, je crois qu'on avait commencé à en parler avec Kamel il y a déjà, je pense, 15 ans. Quoi. C'est vraiment un frein. Enfin, bref. Voilà, bon. Donc, j'ai fait le tour de la Terre, vous l'avez compris. Mais finalement, j'arrive quand même à Poitiers un jour. Et tant mieux, parce qu'effectivement, bah, ça n'est que juste chose, dans le fond, de retrouver aussi les amis et puis de revenir avec quelques éléments qui, j'espère, vont un peu venir nourrir un débat sur quelque chose qui semble être assez à la mode ces temps-ci, les frontières. Tout le monde parle de frontières, même l'État islamique nous bassine avec la fin des frontières, et certains y croient, d'autres pas du tout. Je crois que le thème, il est global aujourd'hui, il est, mais pour moi, disons, le thème des frontières, il s'est en quelque sorte imposé, si on veut bien, au cours de mes recherches. Dans ma thèse, j'avais fait tout un travail, disons, sur qu'on pourrait appeler des frontières invisibles, c'est-à-dire les aspects relationnels ces relations, et notamment matrimoniales, qui existent entre Libanais et Palestiniens dans des contextes difficiles. En l'occurrence, j'avais pris le cas du Liban dans l'après-guerre civile. Et c'était cette thèse a été faite entre grosso modo 2000 et 2005, hein, les terrains de recherche. Et, effectivement, j'avais pu mettre un peu en lumière le caractère mouvant, si vous voulez, et changeant des délimitations symboliques, hein, c'est-à-dire le contour des identités. Et dans le fond, il n'y a rien de plus mystérieux qu'une identité, et en même temps, il n'y a rien de plus clair. Hein, c'est Et c'est tout l'intérêt, disons, d'un travail comme celui-ci qui m'avait mis un tout petit peu le pied à l'étrier en m'obligeant en quelque sorte à me poser une série de questions sur qu'est-ce qu'une frontière au sens à la fois symbolique et empirique, et dans le fond, les transgressions, quand on commet une transgression, bien que la frontière soit signalée nulle part, on est au courant qu'on a transgressé une limite, qu'on a transgressé une norme, qu'on a transgressé un espace symbolique. Alors évidemment, avec les espaces physiques, les choses sont infiniment plus claires. Dans le fond, on est dans quelque chose de plus empirique et qui semble effectivement se donner comme étant, comme on dit en sciences sociales, déjà donné là, hein, c'est-à-dire une problématique qui est sui generis, en quelque sorte. En fait, je pense que la question des frontières, elle est illusoirement trop claire. Au contraire, je pense qu'elle recèle un grand nombre d'aspects relativement cachés. Et je pense que le cas du sud du Liban, voilà, parce qu'il faut quand même justifier un tout petit peu pourquoi. Le cas du sud du Liban offre justement tous les atours d'un espace frontalier tout à fait clair. Hein, je veux dire, c'est une ligne de front. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Hein. Voilà, donc on se bat, on n'est pas d'accord. Voilà. C'est intéressant parce que c'est en fait un espace de confrontation tout petit dans un pays tout petit. Et aujourd'hui, au Moyen-Orient, c'est quand même un espace de confrontation qui perdure. Et il perdure depuis quasiment 50 ans. Là, vous avez la carte du Liban. Donc, le sud du Liban, c'est vraiment cette zone qui est tout en bas, si on veut bien, juste en dessus du mot Israël. Et effectivement, c'est un espace qui a généré une série de relations conflictuelles éminemment intéressantes. Aussi parce que justement, au-delà de la notion de frontière comme simple ligne, dans le fond, comme les anglo-saxons emploient cette idée d'enveloppe de la souveraineté, hein, ils ont plusieurs termes comme ça assez imagés et d'une certaine façon ça traduit bien je dirais une faible problématisation épistémologique de ce qu'est une frontière. Dans le fond, aujourd'hui, probablement beaucoup plus qu'hier, nous savons à quel point les choses sont changeantes. Et on peut même se figurer qu'une frontière physique est changeante, effectivement. Les topographes sont régulièrement appelés dans les montagnes entre la Suisse et l'Italie, entre la France et la Suisse, ou entre la France et l'Italie, pour effectivement rectifier des lignes de crête, pour rectifier des cartes. Donc les choses, même à ce niveau-là, changent. Mais alors là, évidemment, je ne vais pas vous parler de ce type de considération. Je vais vous parler d'une recherche où, dans le fond, j'essaye d'interroger la relation qui existe entre les acteurs et l'espace, entre leurs identités et l'espace dans lequel ils évoluent. Comme l'a rappelé William, c'est un petit peu le sens de mes recherches ces temps-ci. J'ai divisé un peu cette problématique en deux axes, si on veut bien. Dans le fond, qu'est-ce que les acteurs font à la frontière ? Qu'est-ce qu'ils lui font ? Comment est-ce qu'ils la transforment ? Comment ils agissent sur elle ? Étatique, non étatique, quels usages font-ils de l'espace frontalier ? Qu'est-ce qu'ils font avec une frontière ? Qui leur permet, et là je le mets en avant, de contribuer à l'édification d'une identité, collective, d'une identité politique, puisque là on est en phase avec des acteurs qui ne sont pas exactement monsieur et madame tout le monde. Même s'il y en a aussi, hein, mais je ne vais pas vous parler de cela. Le second aspect, c'est justement qu'est-ce que la frontière fait aux acteurs ? C'est l'autre aspect, l'effet boomerang. Hein. Alors c'est le border effect. comme on le dit dans les border studies. Alors les border studies, justement, c'est cette sous-discipline, à la fois interdisciplinaire et c'est une espèce de catégorie d'objets inventée au sens découpé dans la réalité des objets à disposition dans l'espace scientifique par les Américains dans leur questionnement sur leurs relations avec le Mexique. Hein. Donc c'est les border studies, ça nous vient de là. Et puis évidemment, ça a connu depuis les années 60-70 des changements considérables en raison évidemment de leur globalisation, si j'ose dire, comme type d'études qui font du sens. La chute du mur de Berlin a tout de suite ramené littéralement tous ces questionnements. Ensuite, on a pensé à un moment donné que la mondialisation, c'était la fin des frontières. Puis on a découvert qu'en réalité, c'est leur multiplication. Didier Bigot dirait leur pixelisation. Hein. Donc on est dans quelque chose où, dans le fond, les frontières produisent aussi des effets sur la réalité. Et c'est évidemment pas en elles-mêmes qu'elles le produisent, hein, puisque elles-mêmes sont le produit d'une action humaine. Alors voilà. Néanmoins, l'espace frontalier, comme on va le voir, a un effet, impacte en quelque sorte les acteurs qui s'y trouvent, qu'ils le veuillent ou non. À un moment donné, l'épaisseur historique, la densité des enjeux et des problèmes qui préexistent les acteurs qui arrivent sur un espace frontalier font qu'effectivement, ils sont, qu'ils le veuillent ou non, pris dans un système de border effect. Voilà, alors c'est un petit peu ces deux niveaux de recherche, de questionnement, si on veut bien. Je vais aller vite sur le cadre théorique parce que c'est peut-être pas non plus ici, on pourrait éventuellement y revenir, mais enfin, c'est aussi par question par volonté de clarifier un tout petit peu le vocabulaire que j'utilise, qui emprunte, vous l'avez, j'imagine, compris, à cet ensemble théorique des border studies. Donc, c'est-à-dire que je m'attine mon vocabulaire de termes anglo-saxons. Il faut dire que en anglais, pour frontière, il y a trois termes. Hein. Donc, on est déjà dans une richesse sémantique assez différente. Border, boundary et frontier, qui sont des acceptions qui elles-mêmes sont historiquement situées, l'une étant plus symbolique, l'autre étant plus empirique, la dernière étant davantage sur les marges, enfin discutant donc les frontières, les marges des empires. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt ce qu'apportent aujourd'hui les border studies pour nous. Parce que dans le fond, que l'on soit en France ou que l'on soit ailleurs, quand on pense les objets comme la frontière, pourquoi ne pas se saisir de ce que font les autres ? Et les autres, là, en l'occurrence, ça fait plusieurs années que je tourne autour de la Terre dans des colloques sur les frontières. Alors, on passe notre temps à franchir des frontières, en l'occurrence, ce qui est assez sympathique aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet univers relativement interdisciplinaire d'acteurs qui s'occupent à différents niveaux sur des problématiques assez différentes de frontières utilise de plus en plus un vocabulaire qui se tient, un vocabulaire qui fait sens, qui est cohérent et qui s'accorde sur quelques termes. Et peut-être le plus important d'entre eux, c'est celui de bordering. Parce que, ça vous paraîtra évident, mais enfin, une frontière n'a pas seulement une ligne. C'est évidemment la représentation classique que nous avons de la frontière, c'est celle des atlas. Nous sommes travaillé par une représentation de ce qu'est une frontière. On a même une idée de ce que c'est que la France en termes de forme, alors que personne ne l'a jamais vu, sauf à avoir été, disons, suffisamment haut dans la stratosphère pour l'observer. Hein. Ce n'est pas une île, la France. Et pourtant, on sait quelle forme elle a. C'est tout à fait intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, on est nourri par une représentation spatiale avec un bord. Hein. Voilà, cette bordure, comme ça. Alors, Et puis la science politique, les relations internationales sont venues nourrir de façon tout à fait claire cette idée, ma foi, que c'est l'espace de souveraineté, la limite de cet espace de souveraineté. Donc la frontière, c'est une limite. C'est peut-être un petit peu plus que ça. Et l'intérêt, me semble-t-il, aujourd'hui, dans les border studies, c'est de souligner l'idée qu'on a affaire moins à un fait ou un état de fait ou quelque chose qui se donne comme ça, mais plus à un processus. Hein. L'idée que c'est changeant, mais aussi derrière l'idée du processus, l'idée qu'il y a une historicité de la frontière et que celle qui est sous nos yeux, lorsque nous sommes face à une frontière, n'a pas toujours été là, possède ses propres règles, c'est assez amusant parce qu'elles ont toutes des règles différentes, possède également ses habitants, les habitants de la frontière, il y en a des deux côtés. Ils ne sont pas tout à fait égaux non plus, bien souvent, et possède une espèce d'espace. On parlera, depuis, quand on est dans la capitale, on dira, oui, alors, dans les régions frontalières, trois petits points, donc voilà, ça commence où ? Hein, c'est toujours intéressant. Là, de nouveau, on est face à une espèce de déprise théorique où on a besoin de d'autres repères. Et c'est justement cette notion de borderland, par exemple. Pardon. C'est une espèce, donc espace frontalier qui montre un peu le caractère. Le caractère à la fois dense, historiquement, socialement aussi, hein, puisqu'évidemment, s'il y a un borderland, il y a des borderlanders, hein, donc il y a des gens qui vivent là. Il y a aussi des interactions, probablement. Ou alors, s'il n'y a pas d'interaction entre les deux côtés, c'est qu'effectivement, on est dans une situation tendue, hein, pour employer un terme poli. Bon, donc c'est révélateur. Hein, c'est révélateur aussi d'un certain nombre de choses, ce qui s'y passe. Voilà. Il y a cette idée de frontière réseau, un network border, également qui, là je prends évidemment aussi au fil l'idée de la pixelisation de la frontière. Donc la frontière devient mobile, elle se dématérialise et elle se recompose en amont et en aval de la frontière, en points de contrôle. Hein. Donc on contrôle les marchandises et les individus avant qu'ils arrivent à la frontière des États-Unis. Hein. Vous le savez comme moi, on doit remplir des fiches, on arrive à l'aéroport et puis là vous avez déjà un premier contrôle. Si vous n'avez pas votre fiche ESTA à cet endroit-là, vous ne montez pas dans l'avion. Voilà. Donc là, on a un premier contrôle, on est scanné. Hein, qu'on le veuille ou non, d'une façon ou d'une autre, il y a une... alors, on n'est pas des marchandises, hein, mais pas loin. Et d'une certaine façon, ce scanning, il est aussi, je dirais, individualisé. Hein, et donc, c'est cette espèce de frontière inégale. C'est une frontière qui affecte les acteurs de façon complètement différenciée. Hein. Il y a vous connaissez dans les aéroports les fast lanes, hein, voilà, donc hein, pour les entrepreneurs pressés, first class, etc. Et avec les bons passeports, hein, il y a un certain nombre de bons passeports pour lesquels les frontières sont plus ouvertes que d'autres. Par exemple, les passeports canadiens et passeports suisses permettent d'accéder au plus grand nombre de pays sur la surface de la Terre. Voilà, enfin, c'est un petit exemple comme ça, mais évidemment, il y a ceux pour qui les frontières sont extraordinairement complexes à franchir, évidemment à certains endroits bien spécifiques. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'effectivement, cette réflexion sur la frontière, c'est une réflexion sur la pluralité. Mais au-delà de ça, et pour notre propos ce soir, moi, j'aimerais mettre en relation... si je dis que je réfléchis sur cette articulation entre espace et identité, c'est qu'effectivement j'essaie quand même de conceptuellement trouver quelques outils, alors avec des inspirations plus anthropologiques aussi, avec des inspirations de géographie politique, critique, etc., pour mettre en relation justement cette idée de processus frontalier avec l'ordre politique, l'ordre social et politique, et le rapport à l'altérité. Et donc ces deux notions de ordering et othering permettent, si on veut bien, de faire le lien, c'est-à-dire d'incarner en quelque sorte la frontière. Elle n'est pas juste une entité qui est posée là, on l'a bien compris, elle n'est pas juste une bande juste un peu plus large, ça ne serait rien d'autre qu'un autre objet, en quelque sorte, elle s'incarne dans des relations. Et c'est un petit peu l'idée que j'ai reprise là, évidemment, en suivant aussi d'autres, mais eux n'avaient pas forcément les mêmes lectures que moi, ces deux-là, je les connais. Mais par exemple, de Barthes, hein, enfin, donc en anthropologie, bon, j'ai fait un petit peu d'anthropologie aussi, et puis c'est inspirant, enfin, dans le fond, à un moment donné, de quoi est-ce qu'on parle ? Enfin, je veux dire, si on va sur le terrain, c'est pas juste pour regarder les choses, on pose des questions à des gens, et on rencontre des gens, et c'est peut-être tout l'intérêt, disons, d'une réflexion sur la frontière, c'est pas juste d'aller observer un mur. Voilà. Alors, j'arrive enfin sur le cas d'étude. J'étais un petit peu long au démarrage, on dirait. Alors, ça me semble utile, disons, de dire deux ou trois choses succinctement, peut-être en quelques dates ou en quelques, mais peut-être aussi en quelques rapports politiques. Dans le fond, le sud du Liban, c'est un espace qui se structure un peu contre sa volonté, en tout cas contre la volonté des gens qui y vivent. Hein. La rivalité franco-anglaise, elle est tout à fait claire, tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde a entendu parler des accords Sykes-Picot, certainement grâce à l'État islamique, et c'est assez incroyable. Voilà, et en même temps, il y a un peu une croyance que ces accords Sykes-Picot ont divisé, ont fait une frontière. En fait, ils ont pas créé une frontière, ils ont posé des zones d'influence. Hein, et puis, entre ce qui a été dessiné au départ et la réalité des traits que l'on découvre dans les frontières internationales à la fin, il y a encore du jeu. Hein, et on le voit ici, notamment. Mais pour ce qui nous intéresse, force est de noter une chose, c'est que cette région était un enjeu. Cette région entre le sud du Liban et le nord d'aujourd'hui Israël, à l'époque la Palestine, était un enjeu dans le cadre d'une relation à plusieurs acteurs, où le mouvement sioniste avait une position extrêmement importante, puisqu'il influençait assez grandement la réflexion britannique, notamment celle de Lloyd George, sur justement où faire passer cette frontière. Hein. Et vous le voyez avec le petit pointillé plus au nord, hein, donc les petites croix, qui donnent effectivement la proposition sioniste à la conférence internationale en 1919 à Paris et qui dit bien en fait qu'il y avait aussi un dessin là derrière. Alors on peut raconter toutes sortes de choses. Il y a quelque chose de très empirique dans cet endroit et les géographes le savent mieux que moi, mais enfin quelque chose qui continue encore aujourd'hui à jouer un rôle, son petit rôle, ce sont les ressources en eau. Hein. On est quand même dans une région où l'eau, c'est pas exactement en principe ce qui est le plus répandu. Le Liban n'est pas un pays à plaindre, hein, si on le compare à peu près à tous ses voisins, bien évidemment. Mais évidemment, pour le projet sioniste, c'est des ressources en eau, c'était quand même une assez bonne idée, quoi, disons. Voilà. Et là, cette étrange frontière, hein, dans le fond, où on voit tout d'un coup une espèce de doigt, on appelle ça le doigt de la Galilée, c'est assez étrange comme appellation, effectivement, il suit en fait une forme en raison précisément de revendication à propos de ces ressources en eau. Alors voilà, donc entre, si vous voulez, c'est intéressant parce qu'entre le moment où est déclaré le mandat français, hein, sur le Liban et où est proclamé le grand Liban, hein, puisque dans le fond, on a un petit Liban qui vit sous protectorat européen depuis 1861 et qui s'incarne dans un grand Liban puisqu'on lui rattache les régions périphériques du nord, de l'est et du sud. Majoritairement musulmane, lors de sa création, 1920, pour des différentes considérations, notamment la viabilité de la montagne libanaise qui sortait donc d'une grande famine en 1920. Et là, dans le fond, ce Grand Liban, je reviens au slide précédent, parce que vous le voyez, entre 1920 et 1923, c'est quand même 2 années et demie, 3 ans, en l'occurrence, de négociations entre les Français et les Britanniques pour délimiter cette frontière sud, hein, entre la Palestine et le Liban, puisque la Palestine était un mandat britannique. Voilà, ça dit bien qu'à partir du moment où on déclare un État, ces frontières ne sont pas encore claires. Quoi. C'est assez amusant, puisqu'évidemment, aujourd'hui, ça semble, on a l'impression que c'est prendre le problème dans le mauvais sens. En réalité, si on pense au Sud-Soudan, là aussi, hein, il y a un certain nombre de problèmes et d'enjeux frontaliers qui ne sont pas du tout clairs. Donc rapidement, à partir des années 20, se met en place, donc, sous le mandat, un système républicain, parlementaire, inspiration de la Troisième République française. L'indépendance est en quelque sorte arrachée en 1943, mais dans une douleur qui est incroyablement plus faible que partout ailleurs, hein, ou presque. Hein, c'est vraiment pas dans la violence que ça se fait. Il y a évidemment des grandes manifestations, il y a des élites qui sont incarcérées, mais le Liban, c'est quand même l'enfant chéri de la France. Hein, et jusqu'à aujourd'hui, on trouve des francophiles qui parlent encore de notre mère, la France, hein, au Liban. C'est dire aussi quelque chose à ce propos. L'État indépendant, il est entouré de difficultés, hein, il est entouré de défis. Voilà. C'est pas vraiment un listing, hein, mais la question palestinienne, donc à 5 années après la création du Liban, 100 000 réfugiés palestiniens arrivent au Liban. Bon, dans un pays qui, évidemment, au jour d'aujourd'hui, avec la crise syrienne, on a l'impression que c'est une espèce de bagatelle, hein, sur le moment, et vu, disons, l'état dans lequel se trouvait le Liban en 1943, c'était quand même un défi tout à fait sérieux de recevoir les réfugiés palestiniens, qui, pour certains, ont vécu pendant de nombreuses années sous des tentes, hein, du CICR. Hein. Les régimes autoritaires, évidemment. Hein, ça, c'est parce qu'il manque dans la région. Et puis, Israël, du fait de la présence palestinienne, la raison, évidemment, la création de l'État d'Israël. Donc, une frontière qui devient agonistique, en quelque sorte. Hein, une frontière qui se ferme, hein, au sud. Ce qu'on appelait la guerre froide arabe, le nasserisme. C'est pas les vecteurs, disons, de déstabilisation qui manquent. L'État libanais, je le rappelle, et la nation libanaise est fondée sur une espèce de double négation, hein, ni l'Orient ni l'Occident. Hein. Sous-entendu, les élites libanaises se sont mises d'accord en 1943 dans un pacte national non écrit pour définir la nation libanaise par une double négation. C'est tout à fait étrange et ça pose encore aujourd'hui une série de problèmes, mais vous imaginez bien que dans ce contexte polarisé des années après l'indépendance, notamment 50 et 60, et, ou plus tard aussi, bien sûr, le Liban a traversé tout ça dans une tourmente et ça a vraiment polarisé sa société, une société pluricommunautaire, comme vous le savez, je ne reviens pas sur cela, mais pluricommunautaire, mais dirigée par un hégémon maronite. Hein. Donc, à un moment donné, c'est quand même eux qui ont fait un peu la pluie et le beau temps au sommet de l'État et qui, du reste, vont être largement contestés par toute une frange de gauche qui n'est pas seulement musulmane et qui va utiliser donc la question palestinienne pour revendiquer un changement politique, un changement qui sera ensuite fait dans la violence. Alors, j'avance un peu parce que sinon je... ce qui nous intéresse pour le sud du Liban, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, Dans les années 60, la résistance palestinienne apparaît. Donc l'OLP est créée en 1964. Les premières opérations ont lieu en 1965. La résistance palestinienne progressivement s'implante, ouvre des bases. Je suis désolé, la carte est en anglais, je ne sais pas pourquoi. En l'occurrence, vous les avez en vert ici, et ces bases vont en quelque sorte structurer un espace du sud du Liban qui a toujours été peu investi par l'État. Hein. Donc ce n'est pas une résistance palestinienne qui va bouter l'armée hors du sud du Liban. Ce sont des acteurs qui vont trouver dans un tissu social du sud du Liban qui est majoritairement chiite, mais qui est surtout de classe sociale défavorisée, qui vont trouver dans cet environnement des gens qui comprennent bien leur volonté de révolution. Et dans le fond, l'idée de la révolution, elle suit le même chemin pour les chiites du Liban qui se trouvent dans une situation quasi féodale avec des patrons, des propriétaires terriens qui sont leurs patrons et qui sont littéralement, enfin qui font ce qu'ils veulent. Enfin, c'est tout à fait terrible. Avec l'assentiment des élites à Beyrouth qui, de toute façon, s'en fichent complètement et royalement de ce qui se passe au sud du Liban. C'est vraiment trop loin. Et du reste, l'asphaltage des routes et l'électrification du sud du Liban se fera seulement dans les années 60. Voilà, donc pour vous dire le désintérêt extraordinaire de la capitale et des élites qui ont commencé à faire beaucoup d'argent aussi du fait du repli du trafic marchandises qui entrait dans l'Interland arabe avant 48 par Haïfa et qui là se replie sur Beyrouth. Et ça, c'est extrêmement important aussi en termes de génération de flux et de flux financiers. Voilà, donc entre ceux qui roupillent à Beyrouth et ceux qui se battent au sud, il y a une vraie frontière, si j'ose dire, dans le sens de ce qui se passe sur le terrain. Alors, ce qui se passe sur le terrain, c'est que l'expérience palestinienne en Jordanie ayant donné ce qu'elle a donné, c'est-à-dire, dans le fond, une confrontation avec le roi qui ne veut pas se laisser faire et qui reprend l'initiative et qui boute, dans le fond, la centrale palestinienne hors de Jordanie, eh bien, cette centrale palestinienne se réinstalle à Beyrouth, hein, au Liban, et intensifie à partir de... j'ai mis 69, mais ces opérations. En 1969, à la fin de l'année, c'est surtout ça qui est important, est signé un papier qui va permettre justement de marquer en quelque sorte un processus de frontiérisation, de bordering justement de la part de la résistance palestinienne sur le sud du Liban, puisque c'est la signature des accords du Caire, les accords du Caire qui autorisent dans le fond la résistance palestinienne à faire ses opérations transfrontalières armées. Moyennant en échange du fait d'informer et de mettre au courant l'armée libanaise, ce qu'ils ne font en général pas. Bon, voilà. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, ces camps qui s'installent, qui commencent à grossir, hein, les camps d'entraînement, également les camps palestiniens ici que vous avez en bleu, constitue ce qui a été qualifié par les chrétiens maronites à Beyrouth de Fataland, hein, donc c'est-à-dire la région du Fatah. Hein, donc le sud du Liban n'est plus à nous. Voilà, on s'est fait confisquer le sud du Liban, etc. Donc la question palestinienne, vous le comprenez immédiatement, va polariser la scène politique libanaise de façon tout à fait dangereuse, au point évidemment de provoquer une guerre civile. Entre Libanais d'abord. La résistance palestinienne durera ce qu'elle peut durer, c'est-à-dire jusqu'en 1982, jusqu'à l'invasion principale de 1982, donc d'Israël. Mais dans l'intervalle, ce qui est intéressant, c'est que la catégorie même des combattants palestiniens, les fedaïnes, hein, c'est-à-dire ceux qui se sacrifient pour la cause, littéralement, cette catégorie connaît, du fait de la confrontation, du fait de cette présence au sud du Liban, du fait de la nature de cette frontière au sud du Liban, du fait de l'absence de l'État libanais au sud du Liban, eh bien, elle connaît en quelque sorte une transformation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le fond, quand on dit les Fedaïn, on pense évidemment aux Palestiniens. On ne va pas penser à toutes sortes de... d'autres groupes. En réalité, si ça a commencé par être effectivement des Palestiniens, et dans les entretiens que j'ai faits, c'était les Palestiniens, tous les Palestiniens, etc., petit à petit, eh bien, cette frontière agonistique, cette frontière sur laquelle, évidemment, Israël ne se laisse pas faire, mais réplique, cette frontière qui coûte cher en vie humaine et en argent, et qui coûte cher politiquement aussi à la direction de l'OLP, qui doit évidemment ferrailler avec... avec ses rivaux politiques à Beyrouth, eh bien, cette frontière génère en quelque sorte une sorte de professionnalisation. C'est-à-dire que la catégorie même du Fedaïn devient une catégorie transnationale, mais de professionnels de la guerre. Donc ce sont des combattants aguerris, c'est un peu des gens que j'ai rencontrés aussi, pour bien comprendre en fait comment cette catégorie avait été affectée par la frontière, en quelque sorte, comment elle s'est transformée. Donc là, on est en présence de quelque chose tout à fait clair en termes de border effect. Autre élément intéressant, c'est qu'évidemment, s'il y a un bordering qui est fait par la résistance palestinienne, Israël ne s'est pas laissé faire, on peut bien s'y attendre. Ils ont soutenu une milice locale qui a fait une sorte de contre-bordering et qui a réordonné en quelque sorte le sud du Liban en créant donc, surtout avec son invasion de 1978, la toute première, une zone tampon, hein, voilà, une zone tampon qui va déplacer la frontière réelle, hein, la frontière que l'on franchit, où est la limite? Quand on dit où est la limite, bah, la limite, je posais la question au chauffeur de taxi les premières fois que j'allais au Liban, il y a longtemps, très longtemps, juste après la guerre, je lui disais, mais tu peux aller jusqu'où? C'est où la limite? Puis il me disait, oui, ça doit être le village un tel ou le village un tel, etc. Puis alors finalement, on arrivait dans le village un tel, et puis évidemment, ça ne marchait pas, on n'y arrivait jamais. Mais toujours est-il que, disons, la frontière donc internationale, la frontière de tracée en 1923, qui est devenue une ligne d'armistice en 1949, qui est donc ici peu visible sur cette carte, puisqu'elle est minorée du fait de l'invasion israélienne. Elle est remplacée progressivement par une ligne plus au nord, hein, comme vous le voyez sur cette carte. Cette ligne plus au nord, en violet, c'est celle contrôlée par la milice supplétive chrétienne financée par Israël. Donc celle qui va devenir l'armée du Liban Sud. Hein. Les petits pointillés verts discrets comme les fonctionnaires de l'ONU, c'est précisément la FINUL qui tente de se déployer du fait de l'invasion de 78 et de la résolution 425, qui est rapidement votée du reste, et qui tente de se déployer, mais qui, comme vous le voyez, n'arrive pas à atteindre la frontière internationale. Hein. Donc la FINUL ne peut pas atteindre la frontière internationale parce que celle-ci est bel et bien occupée. Elle est bel et bien, on peut dire, les Israéliens sont des deux côtés. Hein. Alors, j'ai vu ça aussi pendant la guerre en ex-Yougoslavie, c'est les bonnes frontières, c'est toujours celles où les acteurs dominants sont des deux côtés. C'est sûr que ça arrange les choses. Hein. Et pendant très longtemps, je peux ajouter cette notice à la fois amusante et personnelle, mais en même temps tout à fait vraie, pendant très longtemps, en fait, l'armée israélienne donc a... lorsqu'on faisait du tourisme en Israël, avait pour coutume de faire circuler les touristes au nord d'Israël en promouvant ce qu'ils appelaient, dans la ville de Metula, que vous voyez ici, donc dans le doigt de la Galilée, là, juste à la limite, donc dans cette ville israélienne, c'était l'idée de la bonne frontière, hein. C'était le slogan « Metula, the good fence ». Pourquoi c'était la bonne frontière? Et bien précisément parce que les Israéliens étaient des deux côtés. Et voilà. Et sous-entendu, bonne frontière, bonne collaboration, c'est ça, this is the solution. Hein, voilà. Donc c'était tout à fait clair. Cette frontière, cette nouvelle frontière va durer très longtemps. Hein. Cette occupation, elle commence en 78, mais elle se terminera réellement qu'en l'an 2000. Et on le voit sur cette carte. En 1982, la volonté de faire entrer le Liban dans le giron israélien, donc de faire ce reordering du Liban avec des alliés chrétiens, donc la milice chrétienne des forces libanaises, leur chef Béchir Jamayel, qui vont devenir des alliés objectifs d'Israël dans cette invasion de 1982 avec l'assentiment évidemment de Washington. Problème, Béchir Jamayel est assassiné 10 jours après avoir été élu. Faillite de l'alliance chrétienne, puisqu'évidemment là, c'est un peu la débandade. Amin Jemayel, son frère, qui est intronisé rapidos, on ne sait pas exactement pourquoi, sauf si ce n'est pas son frère, mais enfin, c'est tout à fait lunaire. Et le personnage, en fait, n'est absolument pas du tout de la même trempe que son frère Béchir. Il n'est pas respecté par les hommes de la milice. Hein. C'est un diplomate, c'est quelqu'un qui veut négocier. Il n'est pas d'accord avec Israël. Enfin bref, rien ne fonctionne. Donc c'est le projet est quelque peu en échec. Le projet est en échec progressivement. Merci. Le projet est en échec et en plus au Liban, eh ben à partir du moment où Béchir Jamayel n'est plus là, n'unifie plus en quelque sorte une figure, un espoir, une espèce de modus vivendi possible entre Libanais, eh bien une résistance populaire se met en place, l'acteur syrien reprend du poil de la bête et en plus le pompon, hein, le Hezbollah est créé avec donc le soutien de l'Iran. Et donc on a une milice islamiste chiite qui progressivement intervient au cœur de cette résistance armée, qui regroupe des gens qui vont grosso modo du spectre de l'extrême gauche jusqu'aux islamistes djihadistes qui détestent les gauchistes. Hein. Enfin voilà, donc il y a tout ce qu'on veut là dans la résistance palestinienne. J'ai entendu des récits tout à fait incroyable, enfin c'est haut en couleur, disons. Et évidemment, donc, comme vous le voyez sur cette carte, les Israéliens sont obligés de se replier. Hein. Ça leur coûte très cher en hommes, cette occupation. Et donc leur bordering, en tout cas leur ordering du Liban, c'est l'échec. Et avec progressivement la montée en force du Hezbollah, la résistance islamique, tout le monde connaît, on est au cœur d'un vrai problème pour Israël, qui, évidemment, en 1982, avait défendu son invasion du Liban pour se débarrasser des fédaïnes palestiniens. Eh bien, les fédaïnes, ils sont partis. Hein, donc, les Européens ont mis à disposition des bateaux. La centrale palestinienne s'est réimplantée à Tunis. Ils se sont à un moment donné repliés sur Tripoli, mais les Syriens leur ont fait la peau. Enfin bon, un truc absolument affreux. Toujours est-il qu'Israël devrait donc être content, tranquille, tout va bien. Pas du tout. Voilà, évidemment, on génère aussi des animosités en fonction de ce qu'on fait. Et le Hezbollah fait partie, disons, des side effects, hein, des produits, si j'ose dire, dérivés d'une violence constante au sud du Liban, parce que l'occupation israélienne depuis 78, c'était pas exactement, c'était pas quelque chose de tranquille. Hein, c'était, donc il y avait une milice locale qui régulièrement allait tirer des gens comme des lapins. Hein. C'est donc aussi une situation qui tout d'un coup déborde d'une certaine façon. Et les chiites du sud du Liban, si à un moment donné ils ont pu collaborer avec Israël pour se débarrasser des Palestiniens, hein, puisque là on est aussi dans des jeux de à qui la faute si le sud du Liban est en feu. Ah bah ça doit être les étrangers. Alors les étrangers c'est qui? C'est les Palestiniens. Palestiniens. Les Palestiniens ont un peu aussi souffert de ça, hein, on oublie de le dire. Et donc la résistance palestinienne a été littéralement applaudie quand elle a quitté le Liban par une partie des Libanais, parce qu'ils étaient contents de s'en débarrasser. Mais voilà, l'occupation israélienne, c'est une autre chanson. Et les systèmes de collaboration qu'Israël a essayé de mettre en jeu, j'en parle en fait dans le livre de façon un tout petit peu plus documentée, ont généré extraordinairement beaucoup de violence et de frustration au sein de la société, et ont permis aussi de renforcer les rangs, d'engranger des volontaires pour le Hezbollah. En face, dans la zone, je reviens sur la carte, dans la zone entre la ligne bleue et la ligne rouge, vous avez cette zone occupée, hein, par Israël. Donc Israël replie ses troupes sur cette zone de sécurité, qui va devenir une zone d'insécurité manifeste, évidemment, parce que dans cette zone patrouille la milice supplétive de l'armée du Liban Sud, hein, donc des gens financés par Israël, avec de l'armement israélien, avec des tenues israéliennes, etc., etc. Et des marchandises israéliennes, des accès au marché économique israélien, des gens qui vont prendre l'avion à Tel Aviv, et qui ne prennent plus du tout l'avion à Beyrouth. Hein, donc, et je vous ai dit, la frontière, elle s'est déplacée au nord. Hein. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein, comme type de... moi, la première fois de ma vie que j'ai vu cette frontière, en 1987, je l'ai vue depuis Israël, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi c'était tranquille. Hein. Je n'arrivais pas... Évidemment, je n'avais pas en tête ce que je suis en train de vous dire. Donc, je ne savais pas que Israël était présent des deux côtés de cette façon-là. On voyait bien les travailleurs libanais qui franchissaient la frontière. Vous voyez, ils avaient travaillé la journée en Israël, ils s'étaient fait de l'argent, ils rentraient dans la zone occupée. Donc, c'est des Libanais qui sont, dans le fond, captifs d'un système de collaboration. Parce qu'il y avait un système de collaboration. Si vous aviez une personne de votre famille qui travaillait dans l'armée du Liban Sud, vous aviez le droit à ce qu'une autre personne de votre famille, au minimum, ou même plusieurs, puisse aller travailler en Israël. Donc voilà. Et évidemment, si vous ne pouviez pas aller travailler en Israël en vivant dans cette zone occupée, bah c'est un endroit qui ne générait pas de richesse. C'était une espèce de camp militaire, hein, il faut être tout à fait clair, qui en plus recevait assez régulièrement eh bien, les attaques du Hezbollah. Donc ce n'était pas extraordinairement le paradis sur Terre. Ce qui est assez fascinant, c'est que cette situation pour le sud du Liban, la fin de la guerre ne change rien. La fin de la guerre, c'est comme si ça n'était rien passé, hein, du point de vue du sud du Liban. C'est intéressant parce que quand on dit la fin de la guerre, 1990, voilà, on imagine, et peut-être on se souvient des milices qui rapportent les armes, des grands discours, de Hariri qui pour la première fois apparaît à la télévision en brandissant les futurs milliards de la reconstruction. Voilà, on se souvient de ça. Vu du sud du Liban, mais alors il ne s'est rien passé du tout. Quoi. Parce qu'évidemment, la milice de l'ALS, elle est restée là. Le Hezbollah, il est resté armé, puisqu'évidemment, l'État central qui a pris les rênes du pouvoir en 1990, à la fin de la guerre civile, il était sous la tutelle de Damas. Et le Hezbollah, il a évidemment un patron, c'est l'Iran. Enfin, je fais une version un petit peu courte, puisqu'évidemment, il s'est aussi libanisé. Mais ce patron a aussi un allié qui est devenu aussi l'allié du Liban, c'est le régime de Damas, le régime de Hafez al-Assad à l'époque. Et donc, le régime de Damas, qui peu ou prou a fait la loi, oui, la pluie et le beau temps à Beyrouth jusqu'en 2005, et qui par certains côtés continue un tout petit peu, en quelque sorte édicté une règle qui était un agreement avec Téhéran sur la continuation de la résistance armée du Hezbollah, indépendamment du fait que toutes les autres milices ont rendu leurs armes. Hein. Justification ultime, notre pays est occupé. Par voie de conséquence, mission du Hezbollah, libérer le pays. Donc, transformation de la résistance islamique qui avait prévu de faire une révolution islamique au Liban en une résistance nationale. Voilà. Voilà comment on lave plus blanc aussi au Liban. Et c'est assez intéressant parce que c'est là qu'on voit que, et c'est là qu'on comprend que, après avoir progressivement monopolisé la résistance armée contre la zone occupée pendant les années 80, à la fin des années 80, le Hezbollah s'est donc imposé comme un acteur militaire incontournable contre l'occupation de l'armée du Liban Sud. Et au Liban, il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que c'est assez récent qu'il y ait des gens qui critiquent vertement le Hezbollah aussi massivement. Hein. Évidemment, la crise syrienne y est pour franchement quelque chose. Mais moi, quand j'ai commencé mon terrain de recherche dans les années 2000, au tout début des années 2000, mais il n'y avait personne qui portait un regard sérieusement critique sur le Hezbollah. Hein. Enfin, je veux dire, c'était, alors oui, évidemment, il y avait ceux d'Ashrafi. Hein. Bon, voilà, donc les habituels, si j'ose dire. Mais bon, et alors, ben, d'une certaine façon, le Hezbollah s'est légitimé auprès d'une large frange de la population libanaise. Et ça, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Parce qu'à un moment donné, ben, cette occupation, c'est une occupation militaire, elle est tout à fait injustifiable. Il y a une résolution des Nations Unies, 425, qu'est-ce que les Israéliens font au Liban ? Enfin, il n'y a plus de justification, enfin, c'est devenu lunaire. Même en Israël, il y a un débat pendant toutes les années 90 sur mais qu'est-ce qu'on fait au Liban ? Hein ? Voilà. Et chaque année, il y a une moyenne statistique d'à peu près 25 soldats israéliens qui sont tués, et c'est toujours la même chanson dans la presse israélienne, c'est effectivement, c'est scandaleux, qu'est-ce qu'on fait là-bas ? C'est indéfendable, pourquoi aller se faire tirer comme des lapins par le Hezbollah qui évidemment est très content d'avoir une cible facile. Hein, parce que alors, les Israéliens, vous voyez, quand il y a une ligne, ça veut dire que vous avez une ligne de front. Donc si vous avez une ligne de front, vous avez des gens qui sont exposés. Donc vous pouvez évoluer avec plus de profondeur, si vous êtes le Hezbollah, que ceux qui sont dans la zone occupée. Ceux qui sont dans la zone occupée sont un peu acculés, si vous voulez. Et surtout qu'ils doivent défendre des positions. Donc à un moment donné, le Hezbollah se livre aussi à un jeu de bordering actif, comme ça, pour dire cette présence étrangère ne peut pas durer. Et de fait, Israël se retire de façon unilatérale en 2000. Et le Hezbollah clame sa victoire. Il clame sa victoire. Et alors, il se passe quelque chose d'assez intéressant parce que dans ce processus de refrontiérisation, de réoccupation de la zone frontalière, l'armée libanaise n'y va pas. La justification qui est complètement spécieuse, bien évidemment, du gouvernement libanais, qui est donc à la botte de Damas, je le rappelle, à ce moment-là, c'est de dire « nous ne voulons absolument pas cautionner ce retrait unilatéral. Donc, nous n'allons pas amener l'armée libanaise sur la frontière. Hein, » CQFD. Donc, qu'est-ce qui reste ? Ben, il reste le Hezbollah. Et donc, le Hezbollah occupe toute la région avec ses différents acteurs, ses différentes institutions à l'intérieur du parti, donc la reconstruction, Jihad al-Bina, ceux qui vont indemniser les victimes. Voilà. Donc c'est un groupe para-étatique, hein, complètement, hein, qui prend en charge cette société du Sud, qui va évidemment s'imposer comme l'acteur prédominant et qui redéfinit même une espèce de géographie symbolique, puisque Binj Bail, qui était à peu près nowhere avant, qui était évidemment dans la zone occupée, devient la capitale de la libération. Hein, c'est quand même pas rien, ça. Voilà. Et de l'autre côté, il se produit quelque chose d'assez important. La force des Nations Unies va, elle, enfin accéder à la frontière. Donc, ils sont tout contents. Ils accèdent à la frontière et, en fait, ils définissent une ligne bleue qui est, en fait, la ligne de retrait des forces israéliennes. Hein. Ça n'est pas la frontière, c'est la ligne de retrait. Alors, ça n'est pas la frontière, mais c'est étrange parce que ça y ressemble. Parce que, franchement, en fait, cette ligne bleue, elle est quasiment sur la frontière. Alors, j'ai eu de longues arguties avec différents officiers de la FINUL pendant plusieurs années, oui, autour de cette question de la frontière. Mais je crois que c'est tout à fait clair, disons que c'est une manière de... Puisqu'Israël ne reconnaît pas, puisque le Liban ne reconnaît pas Israël, le Liban refuse d'appeler ça la frontière. Et donc, les Nations Unies ont pris en quelque sorte une emprise de géographie politique, en quelque sorte, sur cette frontière. On redéfinit l'espace avec cette ligne bleue, en requalifiant, en fait, la frontière de ligne bleue, hein, ce qui est une espèce de truc sémantique assez savoureux, mais qui, évidemment, ne résout pas les problèmes. Et vous en avez déjà 13, là. C'est les 13 qui sont mentionnés sur cette carte, qui sont donc les désaccords libanais sur le tracé de la ligne bleue. Hein. Et, bien entendu, le fameux désaccord des fermes. Le désaccord des fermes de Sheba, les Sheba Farms, les fermes de Sheba, qui sont en fait un territoire en altitude qu'Israël contrôle depuis 1967, hein, c'est-à-dire depuis la guerre des six jours. Et je vous rappelle qu'Israël a pris le Golan en 1967 à la Syrie. Le Golan se trouve donc dans le prolongement. Et donc ce territoire, il est tout à fait intéressant pour les Israéliens. Vous allez me dire, oui, c'est normal, il est en hauteur. En fait, ce n'est pas tellement ça, parce qu'aujourd'hui, la hauteur, sur le plan stratégique, on a d'autres armements. C'est l'eau. En fait, c'est l'eau. Hein. Et là, il y a vraiment on retourne à quelque chose de fondamental en termes de ressources. C'est tout à fait intéressant à noter. Alors évidemment, le bordering du sud du Liban par le Hezbollah appelle une réplique. La réplique, elle arrive en 2006. Et là, évidemment, on est dans un monde qui est dominé par la figure invraisemblable de George W. Bush, donc le fils. Et comment est-ce possible? Et effectivement, dans cette entreprise de redresseur de tort au Moyen-Orient pour faire tomber les rogue states, rien n'est assez bon. Et on laisse l'armée israélienne imaginer qu'ils vont éradiquer le Hezbollah, puisque c'est ce qu'ils ont déclaré le premier jour qu'ils ont lancé l'assaut. Eh bien, ils n'ont pas vraiment éradiqué le Hezbollah, comme tout le monde le sait. Par contre, ils ont franchement abîmé le sud du Liban. Alors là, les destructions qui sont là, c'est tout à fait clair. En même temps, ça va être très utile au Hezbollah, si on veut bien, puisqu'à un moment donné, quand il y a des destructions, il faut qu'il y ait une reconstruction. Et alors l'État libanais, qui est évidemment une espèce de diplodocus qui fonctionne assez mal, le Hezbollah à côté, c'est un organisme qui agit extrêmement vite et qui va là aussi contrôler un certain nombre de flux financiers arrivant de l'étranger pour la reconstruction. Donc, remonopolisation du sud du Liban. Mais, évidemment, la résolution 1701 du Conseil de sécurité en 2006 stipule un certain nombre de choses qui vont poser problème au Hezbollah, qui est donc le déploiement massif de la FINUL, donc 14 000 hommes, et le retour de l'armée libanaise au sud du Liban. Donc les problèmes s'empilent et la mission, selon la résolution 1701 de la force internationale, c'est effectivement de désarmer toutes les forces qui ne sont pas étatiques. Donc le Hezbollah est exactement dans la ligne de mire de cette résolution et il doit donc se faire discret. Hein. Mais se faire discret, c'est une chose, mais on verra qu'ils adoptent aussi une autre stratégie. La FINUL, pour sa part, va essayer de sécuriser ce qu'elle peut sécuriser. Donc elle fait des patrouilles très largement, mais elle commence également à partir de 2007 en l'occurrence, à faire un marquage de la Blue Line. Cette Blue Line, que je vous disais tout à l'heure, n'est qu'une ligne de retrait de l'armée israélienne, elle se transforme petit à petit, vous voyez, pour une ligne de retrait d'une armée. C'est étrange, elle se transforme en frontière, comme c'est bizarre. Et donc, les Blue Barrels que vous voyez ici, qui sont coulés dans le béton, sont des marquages de cette frontière, des marquages physiques, qui sont le résultat d'une entente bilatérale entre les deux armées, entre l'armée israélienne et l'armée libanaise, qui se rencontrent dans un comité technique piloté par les Nations Unies, par la FINUL, à peu près une fois tous les mois. Et c'est un des grands succès de la FINUL, il faut bien l'avouer, puisqu'évidemment, à partir du moment où il y a des Blue Barrels, on ne peut pas dire « non, mais nous, on n'était pas d'accord ». Oui, tout le monde est d'accord sur ces Blue Barrels. Donc, ça veut dire qu'on sait où est la limite. Donc, on ne peut plus la franchir. On ne peut plus jouer sur le flou. Et le Hezbollah, je le rappelle, a beaucoup joué sur le flou de cette frontière. Israël aussi, bien évidemment, pour différentes opérations, et continue de le faire, des opérations d'espionnage notamment. Et le Hezbollah pour les enlèvements. Hein, donc, plusieurs soldats et quelques civils israéliens ont été kidnappés avec la justification que, ma foi, ils étaient entrés au Liban. En fait, il y avait un flou sur où se trouve la ligne. Voilà. Alors, la Blue Line qui aujourd'hui est marquée donc physiquement à quelque chose comme 60-65%. Mais le Hezbollah a dû se replier militairement, en tout cas, un certain nombre de ces sites ont dû être redéployés plus au nord. Mais il a laissé et il s'inscrit comme étant un acteur culturel et social majeur du sud du Liban. Donc ce n'est pas parce qu'il disparaît militairement qu'il n'existe plus. Bien évidemment, il existe dans la tête des gens. Hein. Les gens se souviennent qui a payé leur facture de médecin. Les gens se souviennent qui a reconstruit leur maison. Ce musée est aussi un peu là pour tout ça. Hein. C'est intéressant parce que c'est un musée, le musée de la résistance, qui se trouve à Mlita. Mlita, c'est sur l'ancienne ligne de la plus au nord de l'armée du Liban Sud, donc de l'armée d'occupation stipendiée par Israël. Et c'est un point où les gens se sont affrontés, hein, donc il y a eu des combats militaires là. Et c'est tout ça qui est mis en scène par le Hezbollah dans un musée. Donc, une espèce de narration à la fois de l'histoire récente, de la bataille, avec des restes d'armement israélien. Il y a même une espèce de petit musée où on voit les casques ou des morceaux de Merkava, etc. C'est tout à fait invraisemblable. Et puis, ils ont tout un stock. Alors, j'ai discuté évidemment abondamment, j'ai fait toute une enquête sur ce musée. J'ai discuté assez régulièrement avec les gars. Puis, en fait, un jour, il y a un gars qui me dit « Ouais, oh, tu sais, dans 2 mois, on va mettre des... » Il me disait ça un petit peu du genre grande surprise, révélation, fantastique, il faudra que tu reviennes. Dans 2 mois, on va mettre des débris d'un hélicoptère israélien. Incroyable, quoi. Bon, voilà. Donc, the show must go on. Hein. C'est littéralement ça, en fait. Hein. Donc, il y a une mise en scène de la violence. Il y a une mise en scène de la menace. Alors, de la menace aussi que Hezbollah fait peser sur Israël. Hein. Donc, il y a aussi des grandes cartes de l'État d'Israël ou des cartes de l'État-major israélien avec des cibles des sites militaires israéliens qui sont listés avec les coordonnées topographiques. Donc, manière pour le Hezbollah de faire une espèce de show-off comme ça pour montrer sa puissance, pour montrer qu'en fait, ce sont eux qui sont au contrôle, hein, qui défendent la nation libanaise. Donc, on est vraiment toujours dans ce bordering. Mais alors là, on est plus dans quelque chose de l'ordre du ordering, puisque, je le rappelle, le Hezbollah est entré au gouvernement à partir de 2005, hein, et a pris quand même un ascendant significatif sur plusieurs des gouvernements de l'après-retrait syrien, hein, 2005. Donc, je dirais, on est dans une stratégie de pénétration de l'État. Hein. Donc, si le Hezbollah s'est retiré du sud du Liban, il pénètre l'État aussi. Mais il pénètre aussi, il continue à vivre dans les consciences tout à fait claires des habitants du sud qui régulièrement viennent visiter ce site où vous avez au milieu des débris de tanks ou des expositions d'armes, vous avez des familles qui pique-niquent. Ambiance. Voilà, alors j'arrive quasiment vers la fin. La mise en frontière par l'État, c'est aussi, donc je disais le retour de l'État au sud, mais c'est aussi la reprise de l'initiative de l'État post-syrien, hein, parce qu'à un moment donné, une fois que la tutelle syrienne s'est retirée, bon, peut-être on peut remettre quelques éléments en route. Là, c'est justement les frontières maritimes qui sont en jeu. Et évidemment, il y a des ressources en hydrocarbures qui ont été localisées ou qui ont été, disons, détectées, puisqu'évidemment, il n'y a pas encore eu de forage. Donc, tout ceci est encore théorique, comme me le disait récemment encore une experte dans le domaine. Mais du côté israélien, il y a des champs gaziers très importants qui ont fait leurs preuves, hein, Et donc, il y a tout lieu d'imaginer que voilà, les ressources en hydrocarbures du Liban, dans les eaux qui sont assez profondes, finalement, pourraient générer de nouvelles ressources. Donc, évidemment, là, il y a une volonté de retracer de tracer la frontière. Et effectivement, au sud du Liban, là, rebelote. Il y a une bisbille entre Israël et le Liban. Peut-être j'en parlerai plus tard si vous voulez que j'entre un peu dans le détail. Toujours est-il qu'il y a une médiation américaine. Il y a une médiation américaine pour essayer de faire avaler la pilule au Liban, comme quoi ça ne serait pas toute la zone qui serait à eux, mais qu'une partie de cette zone serait aux Israéliens. Enfin voilà, alors qu'il n'y a aucun argument juridique derrière. Enfin, c'est tout à fait scandaleux si on regarde les choses de près. Mais enfin, c'est extrêmement intéressant parce que le fait qu'il y ait cette incertitude sécuritaire, vous imaginez bien, va quand même créer en fait créer du retard, bien évidemment, dans la possibilité pour le Liban d'exploiter un certain nombre de ces espaces qui ont été définis, donc vous le voyez, numérotés jusqu'à 10, et qui sont dans le fond un petit peu otages, si on veut, de cette géopolitique. Hein, donc là, on a un retour un peu d'une géopolitique. Évidemment, si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça n'est pas la faute des Israéliens. Hein, il faut le dire sérieusement, c'est la faute. Hein, des élites politiques libanaises. Hein. Aujourd'hui, il y a deux décrets qui ne sont toujours pas votés et qui empêchent justement que les concessions soient octroyées à des compagnies qui se sont déclarées depuis belle lurette. J'étais même à un colloque où je les ai rencontrées. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. On peut toujours montrer du doigt Israël quand il y a un problème au Liban, hein, ce que fait souvent le Hezbollah. Mais souvent, ce sont les Libanais qui génèrent eux-mêmes leurs problèmes. Donc voilà, en conclusion, et après peut-être quelques éléments de discussion, mais ce qui m'a semblé intéressant, c'est que, comme vous le voyez, le sud du Liban, y compris dans son espace maritime, je n'ai pas parlé de l'espace aérien, mais là aussi, il y a des éléments que j'ai détaillés dans le livre, apparaît comme intéressante dans la compréhension de ce qu'une frontière mouvante peut être, de sa densité politique et géographique, et aussi du nombre incroyable d'acteurs qui font la frontière, qui participent de la définition de la frontière. Je n'ai pas parlé encore d'autres acteurs qui rentrent en ligne de compte, mais j'ai pris les principaux, évidemment, ici, et qui sont quand même des forces politiques importantes et des États, bien évidemment, qui définissent une certaine géographie du possible. Qui définissent l'espace frontalier. Et puis enfin, ce qui me paraissait intéressant de vous montrer, c'était un tout petit peu aussi cet effet de frontière, hein, ce border effect, qui est constitutif du jeu des acteurs dans cet espace. Voilà, et puis ça c'est l'ouvrage qui résume tout ce que je viens de dire en le disant beaucoup mieux. Voilà, je vous remercie. Merci. Pour votre attention.
Merci beaucoup Daniel pour cet exposé sur cette... espace malgré tout au cœur de l'actualité, mais qui reste très méconnu dans sa réalité, on pourrait presque dire quotidienne, au fil de ces années de conflit. Donc comme à l'accoutumée, vous avez la parole maintenant pour poser toutes les questions que vous souhaitez dans le quart d'heure qui suit. Anne vérifiera le chronomètre avec beaucoup de sérieux.
Merci beaucoup monsieur pour cette conférence, on a appris beaucoup de choses. Alors...
Je ne connais pas très bien l'histoire médiévale, mais vous n'avez jamais été tenté d'utiliser le concept de marche pour parler de la frontière, hein ?
Vous avez tout à fait raison. Je vous remercie de cette question. En fait, oui, je suis tenté, je continue à l'être. J'y réfléchis en fait à propos, enfin, dans le cadre d'un... Donc ça serait la notion de frontier... dans le cadre d'une recherche sur les espaces les espaces frontaliers interstitiels, c'est-à-dire les no man's land, justement, ou les buffer zones, etc. Et c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on a là quelque chose qui va, je pense, dans le sens de ce à quoi vous pensez. Et il y a quelques géographes de géographie politique qui ont commencé un petit peu à réfléchir à cela. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns qui ramènent un peu ça sur le devant. Donc vous êtes tout à fait... Voilà, absolument.
Monsieur, vous avez parlé des accords à Sykes-Picot de 1916, mais je pense que vous pouviez remonter plus haut et mentionner le fait que Clemenceau a donné la Palestine aux Anglais. C'est lui qui l'a donné en premier. Ensuite, il y a eu les accords Sykes-Picot qui ont eu lieu en 1916 en pleine guerre. L'objectif était de se partager l'État ottoman, l'Empire ottoman. Et derrière tout ça, il y a aussi la déclaration Balfour. Je pense que tout est lié. Et l'objectif final, c'était justement de morceler tout cet empire pour donner, selon la déclaration Balfour, un homeland qui est traduit en français par zone de vie pour les Israéliens, alors que homeland, c'est patrie.
Et oui.
Donc on a cessé de jouer avec les mots et avec tous les enjeux politiques. Donc tout ce qui est survenu par la suite et tout ce que vous avez dit n'est que la conséquence de tout ce qui est, disons, de l'action de Clemenceau et des accords Sykes-Picot et de la Première Guerre mondiale. Et je pense que ça me semble presque stérile de mentionner tout ce que vous avez dit, même si c'est très intéressant, bien sûr, parce qu'en fin de compte, tout est lié à la Première Guerre mondiale, non seulement. Voilà.
Oui, je pense que vous avez raison de rappeler le projet du foyer national juif, 1917, la déclaration Balfour. En l'occurrence, par contre, je ne suis pas vraiment sûr du régime de causalité que vous posez. C'est-à-dire que, si j'entends bien ce que vous dites, tout ceci était inévitable. Je ne le pense pas.
En février 1917 par la révolution russe, la première, la vraie, la seule, parce qu'il n'y a pas eu de révolution en octobre. Ensuite, l'abdication du tsar. Ensuite, Lénine qui revient en Russie. Ensuite, Trotsky revient, celui qui est devenu président de la Tchécoslovaquie, Masaryk. Ensuite, Lénine prend le pouvoir. Clemenceau reprend le pouvoir. Déclaration Balfour, tout ça survient en 1917. Tout semble parfaitement organisé. Et il y a aussi un élément qui n'est pratiquement jamais mentionné. C'est qu'en novembre 1917, les alliés se sont rencontrés à Paris pour intervenir en Extrême-Orient. Ça, ce n'est pas dit. Et c'est bien dommage parce que derrière tout ça se cache beaucoup de choses. D'ailleurs, si on mentionnait cet événement de l'intervention des forces alliées en Extrême-Orient entre 1918 et 1920, on serait obligé de dire que les hostilités ne se sont pas terminées le 11 novembre 1918, mais le 23 octobre 1919. Et ça, c'est bien caché. Il suffit de regarder sur Internet décrit du 23 octobre 1919. Et vous verrez. Donc, pour moi, tout est organisé, c'est sûr. Mais bon, c'est ma conviction.
Que Daniel essaye de faire, et beaucoup de chercheurs en sciences humaines et sociales aujourd'hui essayent de faire. D'abord, il y a aussi le temps s'est écoulé. Il y a un accès aux archives qui est très important aujourd'hui. Et on déclasse des archives. Alors, vous allez me dire, toutes ne sont pas déclassées. Mais en tout cas, l'accès aux archives modifie quand même le cours de la recherche. L'accès à certains protagonistes aussi, qui ont la parole plus libre aujourd'hui, pour expliquer un petit peu cette situation, nous protège un petit peu de ce que je pourrais dire sans vouloir aller à l'encontre de votre propos, mais d'une tendance qui pourrait être à une sorte d'aftérologie, hein, comme pour le dire les Britanniques, à essayer de remettre, réordonner d'une certaine manière toute la chaîne hein, des faits qu'on observe aujourd'hui, la réordonner comme si elle avait été déjà pensée ou préconçue. On pourrait dire simplement du côté sioniste, on pourrait dire peut-être que les Israéliens avaient une vision très avancée de ce que devait être la frontière avec le Liban, mais une partie du mouvement sioniste, dans ses débuts, a avancé totalement à l'aveugle sur cette question-là, puisque notamment Theodor Herzl, quand il va au premier congrès sioniste, quand il en revient, il était presque d'accord, lui, d'accepter la proposition de créer la terre d'accueil israélienne, enfin une terre d'accueil pour les juifs en Ouganda. C'est la proposition qui lui est faite, d'aller en Ouganda. Vous voyez qu'on est quand même très loin des rives du Litani. Donc du coup, il y a quand même aussi, en sciences humaines et sociales, la volonté de faire attention à pas vouloir remettre avec une certaine précipitation en ordre un ensemble d'événements qui, effectivement, vu d'aujourd'hui, pourraient être tout à fait cohérents comme si c'était prédéfini par un ensemble d'acteurs. Alors moi, je suis d'accord avec vous dans le sens où derrière votre intervention, est-ce qu'il faut y voir aussi le poids des acteurs et des figures politiques ? Parce que tu le dis à demi-mot, mais par exemple, Golda Meir, qui a été l'une des premières ministres israéliens, a beaucoup pensé cette frontière avec le Liban, et elle avait une définition qui était de dire la frontière, elle disait la frontière, c'est là où sont les Juifs. C'est là où sont les Israéliens. Hein. Pour elle, c'était la seule définition acceptable de la frontière. Donc ça ramène Béchir Gemayel, était une figure, et en lui-même, sa seule incarnation politique, enfin sa seule vision politique incarnait la frontière, ce que devait être les limites de la frontière. Golda Meir, exactement. Ben Gourion, on pourrait dire la même chose aujourd'hui. D'ailleurs, même ses choix, lui, ses choix de résidence, sa dernière demeure dans le sud d'Israël, etc., montrent aussi une autre frontière de l'État, etc. Donc, quel est le poids un petit peu de ces figures politiques, et est-ce que ce n'est pas ces figures politiques qui sont la figure centrale et l'acteur principal de la production des frontières ?
Ouais. Effectivement, c'est une question redoutable parce que, de nouveau, est-ce qu'on met l'accent sur les processus sociaux ou sur les acteurs, hein ? Qu'est-ce qui crée l'action ? Enfin, c'est une question de sociologie. Là, il y a différentes options analytiques. Moi, je ne suis pas toujours un grand partisan des élites, que je trouve souvent brouillon. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est face à une quantité phénoménale d'élites qui n'ont strictement plus aucune vision, que ce soit ici ou là-bas. Et alors évidemment, c'était peut-être pas le cas avec des Ben Gourion et des Fouad Chehab. Hein. Donc effectivement, là, on est dans une autre époque. Et effectivement aussi, c'est pas pour dire que j'y ai pensé, mais dans l'ouvrage, quand même, je signale quelques éléments sur la force de Fouad Chehab, donc le général qui est devenu président en 1958, qui a littéralement ramené le sud du Liban dans le giron de l'État libanais, en électrifiant notamment le sud, hein, en asphaltant des routes, en développant l'éducation, en rendant l'éducation obligatoire pour tous les villages, en ramenant vraiment toute cette population à l'intérieur du giron de l'État libanais. Et donc là, effectivement, le poids des élites, il est tout à fait indéniable. Mais de quelles élites on parle, de nouveau ? Après, effectivement, il paraît difficile de dire que Hassan Nasrallah compte pour du beurre. En même temps, dans le fond, c'est un vient ensuite comme un autre, si on veut bien. Alors évidemment, il a remplacé Abbas Moussaoui, qui a été littéralement détruit par un missile israélien dans sa voiture avec sa famille en 92 au sud du Liban. Et il l'a remplacé au pied levé le lendemain. Quoi. Mais maintenant, évidemment, c'est un personnage qui a un charisme, qui fait ceci ou qui fait cela. Maintenant, on suit les faits et gestes du secrétaire général, on parle de ses manies, on incarne en fait le personnage, et puis on lui prête aussi, j'ai l'impression, des visions, des idées, etc. Mais dans le fond, comme tout le monde le sait, là, surtout le Hezbollah, c'est une grosse machine. C'est une grosse machine avec un tas de gens. Il y a une choura qui décide d'un certain nombre de choses. Et puis, il y a la voix qui vient d'en haut, c'est-à-dire de Téhéran, quoi, en ce qui concerne un certain nombre de décisions stratégiques. Donc là, c'est tout à fait incontournable. Hein, bref. Et à ce niveau-là, je crois qu'il peut y avoir un jeu des élites, mais il y a une marge. Donc moi, je dirais les marges de manœuvre des acteurs sont quand même pas aussi... c'est comme prêter au président Assad, même si, ou à Saddam Hussein, absolument tous les... lui prêter tous les pouvoirs. C'est à la limite... surincarner le personnage. En réalité, il y a tout un appareil derrière. L'appareil sécuritaire syrien crée, il fait l'homme. Enfin, je veux dire, Bachar el-Assad ne serait rien sans sa police. Rien. C'est évident, quoi. Et donc, d'une certaine façon, il est aussi né là-dedans, parce que c'est son père qui l'a créé, cette police politique, littéralement, cette carapace sécuritaire qui pénètre la société syrienne sous tous les angles, et qui rend effectivement ce système particulièrement difficile à abattre. Il n'en demeure pas moins qu'évidemment, ils ont un pouvoir considérable, ce type d'acteurs, pour faire les choses, pour créer les espaces, pour agir sur les acteurs et sur les groupes. Ouais, c'est effectivement. Donc je pense qu'il y a une balance à faire. Et il faut être assez prudent sur ça. Mais sans aucun doute, on doit regarder les deux côtés, hein, pour pas trop se tromper non plus.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, 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 parce que...
Peut-être
après
le
débat.
Il n'y a pas de réponse. Vous avez une réponse à ça ? Où étaient les Juifs en 1916-1917 ? Bon. Autre chose, vous avez parlé des archives. Ce que j'ai avancé précédemment, c'est le résultat de nombreuses années de recherche dans les archives, dans plusieurs pays. Et en plus, ce qui m'a beaucoup aidé pour comprendre justement ce problème palestinien, c'est la lecture du livre de Philippe Prévost qui s'intitule « La tragédie palestinienne ». Fort intéressant, dont on a peu parlé parce que je pense qu'il dérange. Philippe Prévost, il est professeur à l'université de Nanterre, je crois, je ne sais plus exactement. Mais bon, ça vaut le coup de le lire pour comprendre. Voilà, merci, c'est tout.
Moi, je connais pas.
Ce sera la dernière. Voilà.
Bonjour, moi, je suis Manuel Nadeau, je suis doctorant en économie, je travaille sur la question des frontières, des coopérations, mais en Europe. Alors, tout ce territoire-là, mais un peu étranger, mais bon. Du coup, je voulais vraiment revenir sur l'aspect de la question de l'identité, parce que du coup, au début, vous avez parlé de deux axes de recherche, les acteurs à la frontière, quel usage de la frontière, qu'est-ce que la frontière fait aux acteurs ? Et donc, du coup, je me demandais, puisque du coup, on est resté sur des aspects politiques, les Hezbollah, etc. Et du coup, tous les citoyens, les gens qui vivent dans cette zone, quelle identité ils ont ? Et du coup, qu'est-ce que toutes ces questions de la frontière mouvante, qui n'est pas fixe, qui aujourd'hui est tracée par une ligne bleue, fait aux habitants de cette zone-là ? Est-ce qu'ils se sentent libanais ? Est-ce qu'ils se sentent sud-libanais ? Est-ce qu'ils se sentent palestiniens ? Est-ce que certains se sentent israéliens ? Enfin,
ouais. Merci pour votre question. Et un point très important, effectivement, vous avez raison. Il y a une identité amilite, c'est-à-dire du Jabal Amel, donc la région du sud du Liban, qui est assez forte et qui est une appartenance locale, un localisme tout à fait transconfessionnel. C'est très intéressant parce qu'on pourrait se dire « Ah oui, les Amilites, c'est forcément des chiites. Bah, » En majorité, oui. Mais enfin, il y a tous ces villages chrétiens et quelques villages sunnites aussi, et druzes, de la zone sud-sud, hein, donc tout près de la frontière israélienne, et qui sont tout à fait partie prenante de cette identité. Alors, comme je le disais, en 1923, cette frontière a été décrétée, mais qu'est-ce qui existait avant ? Et c'est intéressant parce que là, il y a des auteurs qui nous expliquent des choses très, très, très importantes sur une identité locale beaucoup plus large que celle strictement des Hamilites, qui est vraiment une identité qui s'articule sur des réseaux économiques entre le sud du Liban et le nord d'Israël aujourd'hui, avec beaucoup de villages pluriconfessionnels et avec des circassiens également, donc il y a des groupes ethniques différents, qui composent une mosaïque incroyable pour cette zone, avec des intermariages, par exemple, tout à fait importants entre les deux côtés, à tel point qu'à partir de 1923, quand la frontière est agréée, si on veut bien, par les puissances, localement, les gens s'en fichent éperdument. Ils veulent absolument passer parce qu'ils ont l'habitude de passer, parce que dans le fond, Bint Jbeil sans la Galilée, c'est une ville sans son arrière-pays. Donc c'est une ville qui est coupée de son arrière-pays. Donc il y a plus les... Et puis la ville de Majayoun, par exemple, elle est née, sauf erreur, au 19e siècle, sur... Comme littéralement ville marchande qui rassemble, avec des grands marchés régulièrement, qui rassemble les groupes qui viennent aussi bien de la Galilée que de la montagne et de la mer au sud du Liban. Et donc c'est un espace d'interconnexion. Et c'est assez terrible de songer qu'en réalité cette frontière, à partir du moment où elle se ferme, 1948, je dirais hermétiquement, très sérieusement, on dira, puisque c'est jamais hermétique complètement, bien sûr, mais à partir du moment où elle se ferme officiellement, etc., elle interdit tout ce qui se passait antérieurement en termes de flux, en termes d'échanges, en termes de pluralité également, identitaire, et le repli sur l'identité hamilite, si on veut bien, ça n'est pas un pis-aller, parce qu'il y a quand même quelque chose de bien spécifique en termes de tradition culturelle au sud du Liban, qui cette fois appartient plus à la communauté chiite, qui est ce lien des clercs chiites avec l'Iran, et cela depuis très longtemps. C'est un très beau travaux de Sabrina Mervin sur le sujet, qui montre bien en fait que cette région classée comme étant, c'est des paysans, quoi. Et ben, en fait, c'est une terre de savoir. C'est aussi une terre où il y avait des savants, et cela depuis plusieurs siècles. Et c'est assez intéressant parce que ça rompt complètement l'image qu'on peut en avoir. Moi, j'ai trouvé que ça enrichissait aussi d'une autre façon, si on veut bien, l'impact du message politico-religieux iranien au sud du Liban. Ça le contextualise et ça le met dans un espace-temps qui est tout à fait différent. Donc l'écho, en quelque sorte, de la révolution islamique de 1979 au sud du Liban, elle est tout à fait claire. Et dans le témoignage des acteurs militants que j'ai retrouvés, qui étaient des anciens miliciens de l'époque des Palestiniens, qui étaient dans les rangs palestiniens, mais qui étaient chiites, qui étaient ensuite passés chez Hamal, ensuite on les retrouve au Hezbollah pour certains, ils ont aussi toute une tradition communiste avant. Bon, bref, des gens comme ça qui vous expliquent en fait que ce qui a changé, ce qui a changé leur vie, littéralement, c'était intéressant d'écouter qu'est-ce qui change leur vie, surtout à eux. C'est la révolution iranienne. Moi, je me suis dit, bon, ça va être l'invasion israélienne, ça va être, je sais pas, moi, les bombardements de telle ville. Ben non, c'est là. Voilà. C'est... Alors, évidemment, c'est une remémoration ex post, hein, on est d'accord. Mais néanmoins, en termes de qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour les acteurs quand ils racontent ce qu'ils vivent, c'est intéressant qu'ils convoquent cette révolution iranienne. Enfin, voilà. Voyez, à la fois une identité composite, donc pour faire une réponse complexe, une identité composite multiconfessionnelle fondée sur une géographie, une géographie restreinte par la force de la géopolitique, et de l'autre côté, une identité transfrontalière articulée autour de la confession chiite.
Du coup, qu'est-ce qui reste de tout ça ? C'est en fait, moi, une des questions qui me taraude un peu au niveau européen, c'est qu'on va monter... un régionalisme européen avec des États-nations qui sont un peu entre deux, où on a l'Europe et des régions qui sont de plus en plus fortes et des identités marquées au niveau des régions. Et est-ce qu'il y a une sorte de régionalisme local qui voudrait s'auto-déterminer d'une certaine manière sur ces bases un peu historiques, ou ça, ça n'existe pas et plus en tout cas?
Écoutez, je pense qu'il y a des dynamiques, il y a toutes sortes de dynamiques qui structurent, je pense, les rapports sociaux. L'histoire, c'est souvent un fond narratif que l'on convoque au bon moment. En réalité, on est bien souvent dans les hard facts, c'est-à-dire que dans le fond, s'il y a un certain nombre de flux économiques qui circulent à travers certaines zones frontalières, entre la France, la Suisse et l'Allemagne, par exemple, dans cette zone, c'est tout à fait clair que là, on a vraiment une entité forte qui est en train de... un pôle qui est en train d'émerger. Et donc, effectivement, que se refasse, se retisse ou se tisse une identité là-dessus, pourquoi pas? On peut convoquer l'histoire un peu comme on veut. Donc, moi, j'ai plutôt envie de dire, faisons attention à l'histoire parce qu'on peut la convoquer comme on veut, mais qu'est-ce qui compte en dernière analyse? Plusieurs types de facteurs, bien évidemment. Il faut qu'il y ait quand même la paix entre les différents États. Je crois qu'aujourd'hui, pour le Moyen-Orient, c'est un certain nombre d'États, on en est assez loin. Mais en même temps, il y a d'autres frontières où ça circule très, très bien. On a un grand spécialiste de la frontière nord du KRG avec la Turquie, par exemple, parmi nous, et qui a bien étudié aussi des flux frontaliers qui sont pas sans poser une série de questions politiques et identitaires. Donc je pense qu'à un moment donné, l'histoire, elle sert au moment approprié. Et dans le fond, le musée du Hezbollah, il est aussi là pour nous le rappeler. C'est que le mouvement chiite aujourd'hui relie l'histoire de la résistance en évacuant littéralement la résistance palestinienne. Donc il s'est approprié le mot résistance. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, les choses sont jamais vraiment définitives non plus. Hein. Donc c'est maintenant, dans certaines circonstances de relations, de rapports de pouvoir et de rapports économiques. Voilà.
Merci beaucoup, Daniel. Je pense que vous avez, quand on quittera la salle, vous avez la possibilité d'échanger, poursuivre la discussion avec Daniel au-delà de cette conférence. Je voulais peut-être juste signaler un point, parce que c'est la première conférence que nous donnons cette année, mais Daniel vient de l'aborder en soulignant la présence de Cyril Roussel dans la salle. Je voulais juste aussi, par rapport aux étudiants qui s'engagent aujourd'hui dans des travaux de recherche, des doctorats et plus encore peut-être des postdoctorats et qui auront une carrière dans la recherche dans l'avenir, ce qui me semble aussi très important à souligner, c'est que nous avons en sciences humaines et sociales la chance, et en tout cas dans le dispositif français, de pouvoir développer, alors tu vas me dire, il n'y a pas que le dispositif français, mais en tout cas dans les unités de recherche qui peuvent être présentes dans les universités françaises, avoir la chance d'offrir des carrières scientifiques à de jeunes chercheurs dans lesquels ils vont pouvoir vraiment être au plus près des situations. On oublie de le dire, c'est vraiment la force d'une partie de la recherche en sciences humaines et sociales, c'est qu'elle est vraiment au plus près des acteurs, avec des immersions longues sur des terrains de recherche. Cyril Roussel, qui est là, a été la semaine dernière au Kurdistan irakien. Actuellement, un ancien directeur de Migrinter, Kamel Doray, est actuellement à la frontière entre la syrienne et jordanienne pour étudier les flux de réfugiés aujourd'hui. C'est vraiment très important de souligner que des carrières scientifiques de jeunes chercheurs qui se mettent en place à un moment où on est en train de se dire est-ce que je me lance dans une thèse ou pas, ouvrent ensuite sur des vies professionnelles qui nous amènent à être constamment, pour bon nombre d'entre nous, au plus près de ces situations-là et de pouvoir les observer sur le temps long. Comme Daniel, tu as pu le faire, on a pu se rencontrer de nombreuses fois à Beyrouth et échanger cette situation. Et moi-même, sautant de Beyrouth le matin à 9h pour être le midi à Tel Aviv, avec des services de renseignement israéliens.
Mais tu passais où?
Les services de renseignement qui vous disent, mais comment vous pouviez être ce matin à Beyrouth et aujourd'hui à Tel Aviv? Alors, évidemment, ça montre encore une fois que les frontières ne sont pas les mêmes pour tout le monde et qu'on peut passer dépasser en tant que chercheur des frontières beaucoup plus aisément qu'une partie de gens qui cherchent à sauver leur vie. Et donc c'est toute cette vie académique et scientifique qu'il faut aussi mettre en avant, parce que je pense que c'est aussi un argument de poids pour défendre le fait qu'effectivement on peut encore se lancer dans la recherche scientifique aujourd'hui et que ça a un intérêt bien particulier. Merci beaucoup.